Tu veux un fond sonore, Melk?
Non, c'est cool, d'autant plus que je vais vous donner quelques docs. C'est une nouvelle qui avait été inspirée de voyages, et notamment de quelques photos. Bon, la nouvelle n'est pas terminée, c'est une nouvelle inachevée. Du coup, je vais vous fournir deux photos qui ont inspiré la nouvelle, et puis une illustration vite fait que j'avais fait après. Alors, les deux photos... Et une illustration en bonus, vite fait. Hop.
Où est-ce ?
C'est dans le chat Livre Blanc.
Je parlais du lieu.
C'est sur la côte de Coromandel, au sud-est de l'Inde. Les photos, c'est bon. Le texte, ok. Alors, cette nouvelle s'appelle « La cité de Mundan ». Au sud, l'horizon se perdait entre le ciel, la terre et la chaleur. Au loin, la ligne du paysage immensément plat vacillait, tremblotait comme les images au-dessus du feu. Aussi, ce qui semblait être des dunes n'étaient que des illusions, taches sombres et mouvantes qui reculaient à chacun de nos pas. À l'est, un fin liseré turquoise nous indiquait la mer, et les denses nuages gris se déployaient jusqu'au zénith, chargeant imperceptiblement un orage incertain. Nous marchions depuis longtemps déjà, sans eau ni nourriture, avec comme seul bagage nos pieds et nos yeux. Alors qu'elle marchait devant moi, elle s'arrêta, souffla en regardant l'horizon, et attacha ses cheveux d'or dans un drapé coloré qui retombait sur ses épaules. Le vent venait de l'ouest, et il emporta ses mots jusqu'au rivage. « Tu crois que c'est un village, là-bas ?»« C'est le bout du monde, oui. Impossible à dire avec ces mirages. Et puis, c'est peut-être bien à 10 kilomètres. »« Regarde par terre. Les traces d'un chariot. Il va au sud, lui aussi. » Suivons-les. On dirait bien des habitations là-bas sur la gauche. Et puis, sinon on arrivera bien à se perdre quelque part. Et c'est bien pour ça qu'on est venu, non? Ah, n'en point douter. Continuons. Nous laissions au nord le passé, nos certitudes et nos souvenirs. L'orage ne semblait pas venir, et seul le vol d'un rapace traversait parfois le ciel. Au fur et à mesure, nous nous écartâmes de la route du chariot, qui inlassablement ne menait à nulle part, et nous prîmes la direction de la côte pour retrouver la fraîcheur des vagues. En chemin, la terre et le sol étaient changeants. Tantôt ils s'enfonçaient sous nos pas, tantôt ils partaient en poussière. Aussi, près de la mer se formaient de petites lagunes où poussaient çà et là des bosquets secs et du bois blanc. De l'un d'eux sortit subitement un chien qui se dirigea vers moi. Son poil usé par le vent était de la même couleur que celle du café quand on y verse le lait. Ses yeux étaient rougis par le sable et ses crocs rongés par l'écume. Arrivé à portée de main, il me salua. « Bonjour, étranger, » dit-il avec un accent étrange. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Pris de surprise, je le dévisageai un moment. « Tiens donc, tu parles, toi ?» Bien sûr que je parle. Quelle étrange question. C'est moi, Ashoka. Tout le monde me connaît ici. Je suis un grand roi, et tout ce que tu vois ici m'appartient. En regardant les vastes étendues alentour, je remarquai que nous étions seuls, moi et le chien. Ouais, c'est bizarre, lui dis-je. J'étais avec une amie quelques instants plus tôt. Ne l'as-tu pas vue? Elle a les cheveux couleur d'or. Non. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de pareille chevelure ici. Tu sais, en mon pays, hommes, femmes et enfants ont la peau comme le soleil, mais leurs cheveux sont noirs, comme s'ils portaient la nuit sur leur tête. C'est bien commode pour trouver le sommeil, lui dis-je d'un air malicieux. Oui, Et puis, nous sommes aussi de formidables rêveurs. Tu connais la cité de Mundan ? Ce nom me dit quelque chose, comme une vieille histoire que j'aurais déjà entendue, mais pas ici. Et pourtant, tu t'y diriges. C'est pour cela que je t'ai aperçu. C'est la bonne direction, mais c'est encore un peu trop loin pour y aller à pied. Je te conseille d'aller attendre mon ami le passeur, vers la berge. Va, il arrive toujours avant la nuit. Alors, j'avançais vers la grande eau. Et je pensais à la cité de Mundan. À mon souvenir, le nom résonnait comme une fable, ou alors un lieu que j'aurais vu étant enfant. Je crois me souvenir que les yeux, ceux des habitants de Mundan, sont vides, sauf les jours de pleine lune. Et je me rappelle aussi que leur langue est pareille à un chant, et leurs mains, dont le bout des doigts est couvert de nacre. Arrivé face à la mer, je prenais une grande bouffée d'oxygène et laissais tremper mes pieds nus dans l'eau tiède. Le soleil commençait à tomber et amenait dans sa chute des nappes mauves et oranges. Puis je vis à droite des silhouettes et en m'approchant, je découvris un groupe de femmes, immobiles sur le sable, parées d'étoffes blanches et de joyaux d'argent. Elles portaient des coupoles d'un bois sombre et rougeâtre, dans lesquels il y avait des fleurs et dans d'autres du sel. Leurs cheveux étaient noirs comme l'ébène, comme me l'avait dit Ashoka. Les voyant comme subjugués, figés, les yeux perdus dans les vagues, je m'approchais doucement et demandais « Je cherche un passeur pour la route de Mundan. Savez-vous où je peux le trouver ?» À ces mots, pas une ne bougea. Toutes restaient le regard durement fixé sur les vagues, comme si elle ne pouvait s'en détourner. Juste une tourna la tête vers moi, mais toujours en regardant la mer, et me dit alors dans un murmure « C'est bien là que tu dois attendre. D'ailleurs, le passeur arrivera juste après que nous soyons partis. » « Mais où allez-vous donc ? C'est le désert ici, » demandai-je. « Nous la suivons, » répondit-elle. Elle fit un rapide coup de tête, me désignant l'océan devant nous. Alors je vis le point qu'elle fixait depuis mon arrivée. Au loin, parmi les vagues, on pouvait discerner une personne, un petit point noir qui s'éloignait de plus en plus vers une mer menaçante, un soleil mourant et une pluie imminente. Puis, on ne distingua plus la silhouette, engloutie par l'océan, qui maintenant soulevait des murs d'eau. Une pluie battante se mit à tomber et des éclairs au loin sortaient de la nuit. Alors les femmes se mirent à chanter, s'avancèrent dans la mer en y déversant les fleurs et le sel. Le vent avait tourné et fouettait les flots violemment. Les éléments grondèrent et un tourbillon commença à tout emporter. La tempête, l'écume, les femmes et les dunes disparaissaient aspirées par le siphon. Je courais contre le vent et le sable et m'accrochais à un arbre blanc quand j'entendis le tintement d'une sonnette. Soudain, je vis arriver une bicyclette, avec dessus un homme qui pédalait à toute allure et qui semblait glisser sur l'écume. Il éclairait devant lui avec un petit phare qui s'allumait par à-coups et tenait dans sa main un grand parapluie noir. Il freina en trombe juste à mes pieds et lança « C'est vous l'allée pour Mundan ?» Accroché comme un pauvre diable à mon rameau, à moitié noyé sous les volutes d'eau, je lui répondis entre deux coups de tonnerre en hurlant. Bah « Alors, vous, on peut dire que vous tombez bien !» Il s'esclaffa en se tapant la main sur la cuisse et répondit « Comme toujours, et encore, je suis un peu à la bourre. Mais montez vite, on discutera plus tard. » Alors je montai sur le porte-bagages, et le bonhomme se remit à pédaler énergiquement, reprenant sa folle course sans vaciller parmi la tempête, comme glissant sur l'écume. Je voyais derrière moi le chaos s'éloigner, et au-devant, je ne discernais qu'un abîme dont seul mon passeur semblait connaître la route. « Je m'appelle Murka, » me lança-t-il. « Je suis le passeur. Et vous ?»« Oh, moi, je suis là incognito. J'aime bien l'air marin, c'est tout. » Il se tordit de rire sur le guidon et me dit au sourire. « Ah ! Vous êtes un sacré numéro. L'air marin, le déluge, vous voulez dire. Si vous aviez vu votre tête tout trempée, accrochée à votre bout de bois. »« Oui, mais c'est vous qui étiez en retard, » lui rétorquai-je taquin. Il s'esclaffa de plus belle, toujours en planant sur la crête des vagues, négociant impeccablement chaque changement du terrain, en conducteur exemplaire, malgré l'absurdité de la scène. Et après quelques moments de silence dans la nuit béante, bercée par le tintement du pédalier, je demandai à Murka « Dites-moi, Murka, juste avant votre arrivée fracassante, j'étais en compagnie de femmes drapées de blanc qui en regardaient une autre sombrer dans la mer. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Ah, je crois que je vois ce dont vous parlez, monsieur. En fait, il doit s'agir d'une veuve qui est allée rejoindre son mari perdu en mer. Et ces femmes avec les fleurs et le sel ? Eh bien quoi ? Ce sont toutes des veuves englouties par la mer, elles aussi ? Mais non, voyons. C'étaient des sirènes. Elles étaient là pour l'accompagner. Fort heureusement, d'ailleurs, parce que ce n'est pas facile de respirer sous l'eau si personne ne vous explique. J'imagine. Mais comment ont-elles bien pu trouver des fleurs dans un coin pareil ? Il gloussa tant et si bien que nous faillîmes tomber. Nous passâmes si près de l'écume que j'en pris plein la face. « Eh, Murka, lui dis-je, j'aimerais bien arriver entier à Mundan. »« Oh, mais ne vous en faites pas. Je connais bien la route. Je l'ai faite tellement de fois. » C'est terminé, les amis. Je ne suis jamais arrivé à Mundan.
Merci.
C'était à la fois nouvelle et poésie, en fait. Le choix que tu nous avais donné, c'était...
La première, c'était une poésie plus courte. La deuxième, c'était ce que je vous ai lu, une nouvelle.
C'était aussi très poétique.
Eh bien, putain, bravo.
Merci.
Paomel Coelho.
Je prends.
Mais c'est bien, en plus, tu lis vachement bien, en plus. C'est bien écrit.
Je l'avais un peu répété.
T'as une très bonne diction aussi.
Bah, j'ai un peu d'entraînement avec les soirées lecture sur ce Discord. On en a fait quelques-unes.
Est-ce que tu as eu un appareil dentaire durant ton enfance ?
Non. Non.
Pourquoi tu dis ça ?
Je connais une personne qui a exactement la même diction. Je trouve une très très bonne diction. Hein. Mais du coup, c'est très perturbant parce que je me demande si tu connais cette personne ou tu es peut-être de la même famille.
Comme ça, je sais pas. Je connais peu de personnes avec un appareil ou qui en ont eu. Tu me diras en MP.
Mais après, je sais pas si c'est un rapport avec l'appareil, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Min Kwan ?
Non.
Ok.
Je l'aurais peut-être rencontré à la cité de Mundan, je sais pas.
Mais du coup, c'était une tirade... Dans quel sens ? Parce que moi, je connaissais le tirade dans le sens... une longue phrase, ou alors...
Je pense que je sortais un peu du cadre de la tirade. J'ai essayé d'y mettre de l'emphase pour que ça reste un petit moment que vous auriez retenu. Si j'avais continué à parler pendant un quart d'heure, à mon avis, on serait sorti du cadre de la tirade.
Parce que tout à l'heure... alors, qui c'est qui a parlé comme ça ? Voro, peut-être ? Voro, c'est toi ? Attends.
Il n'était pas connecté
sur Dany. Dany, tout à l'heure, a parlé d'un auditoire, non ? Dans lequel la tirade, il disait que ça s'adressait à un auditoire. Je ne me trompe pas ? Peut-être que je me trompe.
Ouais, ça peut. De toute façon, j'ai l'impression que les limites ou les bordures de la tirade sont un peu floues. Hein. Tu voulais dire un truc ?
Parce que j'ai trouvé la langue française, enfin, je regardais une définition, et sur le site de la langue française, il y avait morceau d'une certaine étendue qui fait partie d'un ouvrage en prose ou en vers et qui roule ordinairement sur une même idée, sur un même fait. Et je ne connaissais pas cette définition.
Ouais, disons qu'en tout cas, je vous m'entends. Ah oui, vous m'entendez. Disons qu'en tout cas, on va se faire notre propre définition ici. Hein. En fait, on s'encourage surtout les uns les autres à essayer de s'améliorer sur la prise de parole et à essayer de marquer les gens, quoi. C'est après, si la dernière fois, en fait, on n'avait pas fait comme ça. Là, je l'ai fait un peu. On l'a fait un peu au pied levé. Il n'y a pas trop de préparation, mais la dernière fois, on avait demandé à tout le monde, en fait, de faire une tirade sur un sujet donné. Le sujet étant, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne tirade ? Voilà. Donc, on s'était donné plus de temps, s'était donné une semaine pour réfléchir à comment on allait exposer notre idée. Là, évidemment, on n'a aucun sujet, donc chacun parle de ce qu'il veut. La dernière fois aussi, on avait... Parce que bon, peut-être qu'on essaiera de faire aussi des soirées sur un sujet en proposant que chacun fasse une tirade. En gros, c'est en proposant qu'en début de livre blanc, chacun ait 5 à 10 minutes de parole pour exprimer un petit peu son idée sur le sujet. Ça peut être un format qu'on pourrait faire. C'est souvent intéressant. Et on avait aussi un tirage au sort pour proposer aléatoirement à chacun de prendre la parole, en tout cas à toute personne qui avait préparé sa tirade. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a encore Gatsby, l'outre-poutre et moi qui avons préparé des tirades. Donc en fait, on va faire un petit vote, comme ça vous demanderez, ce sera vous qui choisirez l'ordre des tirades. Je prépare le vote.
Petit conseil pour les tirades, pour donner un peu d'emphase, ne pas hésiter à changer un peu de tonalité, pardon, à la fin ou au début de vos phrases. Par exemple, si je vous dis « Quel bel oiseau était sur sa branche, il sifflait avec une jolie voix », c'est pas très chantant. Par contre, si je vous dis « Quel bel oiseau était sur sa branche, il sifflait avec une jolie voix », vous remarquerez que j'ai pris 3 notes différentes à peu près. Ça fait un peu des vagues. N'hésitez pas à faire ces petits effets de manche. Ça fait son petit effet.
S'il le faut, après, j'ai quelques tirades à vous présenter, après que tout le monde soit passé. Pareil, j'en ai une.
Alors, c'est qui ? C'est Mésopotamie, alors je note.
Qui ne sont pas de moi, hein, mais ce sont des quelques-unes que je connais.
Bah, tu vas en choisir une, celle que Très bien. Préfères. Et qui d'autre ? Proclamator ?
Professeur X, mais c'est professeur. Pas. Je compte pas la lire, c'est... j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui jouait. C'est un extrait de pièce.
Ah, c'est une vidéo.
De Molière, Don Juan.
D'accord. Et c'est vraiment une personne qui s'adresse à dans la pièce, c'est une personne qui s'adresse à d'autres personnes et qui parle seule, c'est ça ?
Oui, ça part d'un dialogue.
Ah, c'est un dialogue ou c'est un monologue ?
C'est un dialogue.
Ouais, nous, on va essayer d'aller chercher des monologues.
Bah, c'est une tirade qui... C'est quand même assez long. C'est pas... Enfin, tu verras par toi-même.
Bon.
Je pense que ça va rentrer dans ta définition d'une tirade.
Ok, ça marche. Alors, je prépare le petit vote juste pour l'ordre d'intervention. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur la tirade ? On avait beaucoup plus de contenu. Hein. Là, on le fait un peu à l'arrache ce soir. On n'a même pas réussi à convaincre Ashkamen. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois ? On avait sorti plein de trucs.
Je ne sais même pas si on avait un thème, en fait, hein, la dernière fois.
On avait juste demandé à ce que tout le monde prépare une tirade sur le sujet « Qu'est-ce qu'une bonne tirade ?»
Ouais, puis c'était un peu freestyle. Hein. De même, il y avait autant des lectures de textes personnels que d'autres de poésie, que de passages de bouquins... que le discours, il y a eu un peu de tout.
Mais ça aurait pu être intéressant, mais on ne le fera pas ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Puis c'est vrai qu'il y a... Mais à coup de pas, il n'y a pas assez de préparation. Mais ça aurait pu être sympa, par exemple, de prendre un sujet de l'actualité et de se donner chacun 5 minutes pour préparer un texte sur cette actualité. Ça aurait été très parlant.
Après, un truc qui se fait bien en tirade, et il me semble que Victor Ferry l'avait conseillé, c'est de raconter une histoire personnelle, marquante, qui vous est arrivée, mais d'une manière très... enfin, d'une manière à capter, en fait... l'attention et faire en sorte qu'il y ait une leçon à la fin, un peu comme une histoire, tu vois, en commençant par c'était l'histoire d'un homme, et tu vois, par exemple, et donc un événement de ta vie qui t'a marqué, une difficulté que tu as su surmonter ou pas, et comment tu t'en es sorti vis-à-vis de ça. Et je trouve que c'est un bon exercice. Parce que du coup, quiconque peut avoir une tirade à peu près personnelle grâce à ça.
Ouais, et puis alors la dernière fois, il me semble qu'on avait parlé de ça aussi. Ça, c'est aussi des trucs qu'on apprend quand on lit des ouvrages sur la PNL, la programmation non linguistique. En fait, si vous voulez aussi marquer les personnes qui vous écoutent et qui se souviennent un petit peu de ce que vous dites, c'est bien aussi de vivre en soi, de vivre en soi le récit. C'est-à-dire, c'est vous êtes plus dans la préoccupation de dire ah mince, il y a des gens qui m'écoutent, faut que j'articule bien, faut que je ceci, faut que je cela, vite je vais parler vite parce que je sens qu'ils s'impatientent. Non, là vous êtes dans ce que vous avez à dire, vous revivez le moment. Si c'est un moment de tristesse, vous devez même carrément presque ressentir la tristesse en vous, quoi. Et ça va se sentir dans votre façon de parler. Un texte de l'ours. Faut qu'on le lise pour toi, l'ours. Kaamelott. D'accord. Avant la fin des votes, est-ce que, professeur X, tu veux nous donner ton lien? Je vais le passer sur Rhizome.
Maintenant?
Bah, si tu veux. Parce qu'après, on va se consacrer sur nos tirades à nous, quoi. C'est ce qu'il y a de plus intéressant.
C'est envoyé.
Ça dure combien de temps?
Je crois que ça dure autour de 2 minutes 30. C'est assez court. Super. Si vous voulez que je vous explique le contexte, c'est
avec plaisir.
Don Juan qui parle à son serviteur et en fait son serviteur commence à tenter de lui reprocher son libertinage sexuel, pas au sens général. Et donc Don Juan va tenter de répondre à Sganarelle en défendant le libertinage.
En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.
Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non ! La constance n'est bonne que pour les ridicules ! Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence où elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême, à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre, par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais dès qu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
Hey, salut les putos! Aujourd'hui c'était Don Juan, demain ça sera autre chose. Partagez la vidéo, allez, ciao!
Voilà.
Yes, merci, c'est... Alors, plus que de parler du contenu de la vidéo, là, parce que je vais vous partager un petit retour d'expérience, si vous le voulez bien. C'est qu'en fait, j'ai écouté le son, là, qui est quand même... c'est un truc assez connu. Et, enfin, Don Juan, l'histoire est connue, mais je ne connaissais pas cette tirade. Et il y a des images dans cette tirade. Ouais, c'est violent à la fin, ouais. Il y a des images dans cette tirade, notamment, effectivement, j'aurais voulu qu'il y ait un autre monde pour étendre mes conquêtes. On est carrément dans la conquête d'un monde. Mais par contre, c'est pas à ça que je voulais faire référence là. C'est, je m'aperçois aussi qu'on a, je sais pas si c'est notre société, ou je sais pas si c'est les écrans, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que quand j'étais petit, j'arrivais à me concentrer beaucoup plus facilement sur des bouquins qu'aujourd'hui. Et j'en entends parler dans des articles de journaux, comme quoi la capacité à se concentrer est mise à mal actuellement. Bon, alors je vais pas aller chercher les causes, mais là je voyais, j'écoutais le texte, j'écoutais ton son, professeur X, et en même temps je voyais Black Jason est en train d'écrire, Ashkamen est en train d'écrire, et là j'arrivais plus à me concentrer, rien que de voir ça. J'ai remonté un petit peu la fenêtre pour ne plus voir ce qui s'écrivait. Et puis finalement, j'ai fermé les yeux parce que j'avais vraiment envie d'écouter. Et en fait, c'est juste en fermant les yeux que j'ai fini par me délecter du texte, qui est génial, quoi. Mais sinon, je passe à côté, quoi. Je pense qu'aussi, on a un problème de concentration, je pense. Ou il n'y a que moi, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais. Tu peux répondre ?
Bah ouais, avec plaisir, ouais, parce que pas beaucoup d'intervenants ce soir, alors allez-y. Qui voulait répondre ?
C'était qui ?
J'ai juste demandé si quelqu'un voulait répondre.
Ce que tu dis, Yannis, ça me fait penser aux interviews, Thinkerview. Hein. Si je vais dans le Discord de live où il y a les questions et les commentaires et que je me mets à les lire en même temps, je passe à côté de l'interview généralement.
Mais sinon, j'aurais tendance à dire que, enfin, tu sais, focaliser son attention, c'est comme un muscle, en fait. Hein. Ça s'exerce.
Ouais, je pense que tu as raison.
Et je veux dire, si tu passes beaucoup de temps, par exemple, à lire en faisant rien d'autre, lire en faisant rien d'autre ou travailler en faisant rien d'autre, c'est-à-dire sans écouter de musique ou quoi que ce soit, faire des choses vraiment pleinement, ça devient de plus en plus simple une fois qu'on s'y est mis. Mais c'est pas forcément toujours désagréable de faire plusieurs choses en même temps, mais c'est clair qu'on a l'impression de vivre une... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une dilution. Plus on fait de tâches, plus il y a de dilution dans ce que ressent une personne en une journée. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs choses en même temps, tu vois, écouter de la musique, manger, et jouer aux jeux vidéo, par exemple, tu vois, bah, tu vas pas du tout te remémorer ce moment comme étant un moment spécial, tu vois. Sur le moment, ça va être très bien, mais c'est pas un moment qui ira à la postérité dans ton cerveau ou dans ta mémoire. Tu te diras pas, ah, cette journée, c'est trop bien. Il y a un moment où j'ai mangé, joué aux jeux vidéo et écouté une musique.
Ah non, mais ce que tu dis, moi, je suis assez d'accord. Et surtout, il y a beaucoup d'études maintenant avec de l'imagerie cérébrale, etc. Les histoires de neurones miroirs, j'en parle souvent quand je fais des livres blancs. Sur les neurones miroirs, en fait, quand tu vis intérieurement des émotions par rapport à un texte ou une image que tu vois, en fait, tes neurones à l'intérieur font quand tu vois quelqu'un pleurer, en fait, tes neurones miroirs s'activent et c'est les mêmes neurones que ceux qui s'activent quand tu pleures toi-même vraiment. C'est-à-dire que tu commences intérieurement à vivre ce que l'autre vit. C'est ce qui te permet aussi de dire « j'ai mal pour lui » quand tu vois quelqu'un qui se fait mal et tu sens, tu dis « ah, j'ai mal pour lui ». C'est exactement les mêmes neurones dans ton cerveau qui se passent quand tu te fais mal toi-même. C'est aussi ce qui te permet de voir quand un sourire sur une photo est un faux sourire ou un vrai sourire, parce que le vrai sourire va te provoquer en toi l'envie de sourire, alors que le faux sourire ne va pas faire ça. Et clairement, tu ne peux pas, par exemple, écouter un texte triste et en même temps, je vais prendre un exemple au hasard, en même temps, poster un gif humoristique. Parce que tu ne peux pas ressentir en toi à la fois la tristesse et, sur un sujet et l'humour sur un autre dans le même temps. Il va falloir que ton cerveau il choisisse l'émotion qu'il va vouloir ressentir sur le et quel sujet du coup, quel sujet il va vouloir prendre. Alors je simplifie un peu, hein, mais après je vous parle pas des. Je ne vous parle pas des ondes du cerveau, mais il y a des émissions intéressantes, notamment sur les épaules de Darwin, où il parle de tout ça. Effectivement, le cerveau n'est pas multitâche, il ne fait qu'alterner.
Nous n'avons qu'un CPU. Du coup, c'est... Enfin, Dany, quelle est la suite du programme ?
Et alors on a si je regarde le vote, on a alors tout le monde a voté Gatsby ou Dany. Alors on va faire le deuxième tour.
Mais du coup, est-ce que Dany t'a été un peu touché par ce qu'a dit Kilchouki quand il a insisté sur le fait que tu puisses muscler ta concentration? Parce que je trouve que c'est quand même un message... Enfin, personnellement, je trouve que c'est quand même un message encourageant, ce qu'il a dit. Mais je sais pas pour toi, du coup.
Bah, je garde cette phrase-là, parce que effectivement, je l'avais jamais envisagé comme ça. Je pense qu'il doit avoir raison. Hein. J'ai jamais eu d'infos là-dessus, mais...
Mais quand tu as un muscle atrophié, tu as beau le muscler autant que tu veux, il ne sera jamais aussi puissant qu'un muscle qui est une corde.
Non, mais ça doit être une question d'entraînement, je pense.
Ah, et puis tu sais, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui survit à l'âge. Hein.
Ouais, mais y a la structuration, elle est beaucoup plus importante dans la jeunesse.
Franchement, pas tant que ça. Hein. Je veux dire, les gens qui, par exemple, deviennent aveugles ou ont vraiment de gros accidents, ils ont un cerveau qui est capable de grandement s'adapter, quand bien même ce traumatisme il apparaît après l'adolescence. Hein. Donc, je pense que on est très en deçà du potentiel au niveau du cerveau. Enfin, on a un cerveau qui est capable de s'adapter à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et je pense pas que l'adolescence change énormément de choses vis-à-vis de la question de la concentration, tu vois. Ça peut être un avantage, tu vois, mais je veux dire, ça se récupère, je pense.
Bon, je vais vous proposer ma tirade, alors. Je vais vous lire le texte de But en Blanc. je vous explique pas le, je vous explique pas le texte, je vous explique pas ce que c'est. Si ce n'est que finalement, le texte, je l'ai choisi il y a 2 heures à peu près. Enfin, non, il y a 2 heures avant le livre blanc, je veux dire. Et au final, eh ben, le hasard fait que. Le hasard fait que bah, je l'ai. Il va tomber très bien, ce texte. Il y a des jours comme ça, où tout est trop noir. Pauvre capitaine, tu combats ta peine, mais c'est le vent qui gouverne. Et dans l'amertume, les embruns et la brume, les papillons noirs sur le garde-corps te font oublier le port. Les voyages au long cours, faut pas en faire de drame. Ça fait de toi une femme. Et dans les œuvres vives, c'est comme dans la vie d'un homme. Quand c'est vide, ça résonne. Dans cette humeur noire, tu affales les voiles. Tu te tapis dans la cale, sans la lueur d'un phare. C'est un instant bizarre. Mais la mélancolie ne tient pas la barre. Cherche l'accalmie, sors la brigantine, navigue vers l'embellie. Ta flottaison intime a le mal du pays et lutte contre le spleen. Il met un pied à terre, il marche contre le vent qui lui tape le visage. Beau comme un enfant, il ressemble à un ange. Blanc est son blindage. La main crispée sur le pommeau, entre courage et rage, il fait face au tourment. Tourne le vent, tournoie l'ouragan, tourne la tornade, face au déchaînement. Il passe sous un arbre, et le sol gronde à présent, et rien qui ne témoigne de sa grande épouvante. Gardez-moi du feu, gardez-moi du froid. Que le ciel m'entende pour mener ce combat jusqu'à la suffisance. Mais que s'est-il passé? Le voilà jeté à terre. Défendre la liberté n'est pas une mince affaire. Encaisser, relever, l'épée hors du fourreau, fait siffler son acier. Il faut aller là-haut. Le sang coule dans ses veines et il bout à présent. Sauver la race humaine est un travail de titan. Se garder de la haine, affronter les géants. Voilà son front qui saigne. Ce sont des moulins à vent. Des arsouides, canailles, des voyers, garnements. Il faut porter des coups sans en devenir fou. En avant, il bastonne. Il y aura bien un jour où l'on sera des hommes portés par notre amour. Il y aura bien un jour où l'on sera des hommes portés par notre amour. Il y aura bien un jour où l'on sera des hommes. C'est terminé.
Bravo, Dany. Superbe.
Clap, clap.
C'est toi qui l'as écrit?
Ouais, alors ça c'est des, bah c'est des, en fait c'est des chants hein, parce que j'avais un groupe de musique. D'ailleurs, tiens, je peux vous filer le lien. On avait fait un clip un peu bidon, sans prétention. Alors je vais vous filer le lien.
Ah, tu veux dire que ce que tu viens de nous lire, tu l'as aussi chanté?
Exactement.
Ah.
Et d'ailleurs, j'ai pas voulu parce que bah il fallait que je vous le fasse en direct. Mais au final, il y a plus d'émotion même dans le chant.
C'était doux et fort à la fois.
Et puis, c'est pas mal comme exercice d'essayer de faire une sorte de poème ou de poésie, d'une chanson à la base. Le texte que je vous ai lu, je vous avais donné le choix d'une poésie. Et bien, cette poésie, c'était une chanson. Et quand je l'ai écrit en texte, je l'ai lu. Et je ne l'ai pas chanté. Ça entraîne à la dire un peu autrement. Et j'imagine que c'est ce que tu as fait, du coup, Dany. Tu l'as récité comme une sorte de tirade. Et pas comme la mélodie de ta chanson. Mais c'est pas mal.
Ah ouais. Mmh. Alors, donc en fait, il y avait deux textes, hein, il y avait deux chants et je les ai mis l'un derrière l'autre. Et là, je ne vous envoie le lien que du deuxième, de la deuxième partie. Après, vous l'écouterez calmement. Hein.
Et tu veux pas nous laisser le texte qui traîne sur un PDF ou je sais pas où, de ce que tu as lu?
Il est écrit au stylo à billes, alors j'ai pas de texte en numérique.
Tu peux le prendre en photo.
Ah. Vous ne pourrez rien comprendre, j'ai écrit très mal volontairement.
Tu nous l'écriras quand on fera le podcast pour joindre quelques fichiers au podcast.
Voilà.
C'est bien de garder une petite trace de texte.
Volontairement, tu as dit?
Oui, volontairement, ouais.
Quelle en était la raison?
Bah parce que depuis je me suis inscrit à la SACEM à l'époque, on avait fait un album quand même, enfin un truc sans prétention encore une fois, mais je ne savais, comme quand je l'ai écrit, je ne savais pas que je m'inscrirais à la SACEM, donc je ne savais pas que le texte serait déposé. Donc je l'avais écrit comme ça pour pas me faire piquer le texte parce que je l'aimais bien. Bon, j'étais sûrement parano. Au final, on a sorti l'album et il n'a pas été vendu à des millions d'exemplaires, donc ça ne servait à rien. Est-ce que Gatsby se sent pour prendre la suite?
Carrément.
Alors, excuse-moi Gatsby. Juste, je voulais vous dire un truc, par contre, sur ces deux textes-là, comment je les ai écrits. En fait, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le chant lexical. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, le premier texte, je sais pas si vous avez reconnu, mais c'était dans l'ambiance de la mer et d'un bateau.
Oui.
Et la deuxième, c'était dans l'ambiance de la tempête et du combat. Et en fait, dans les deux textes, j'ai d'abord commencé par écrire mon thème. Donc, je vais prendre que le premier, écrire mon thème, c'est-à-dire la tempête et les bateaux, enfin la mer et les bateaux. Et en fait, tu écris la mer et les bateaux en haut de ta feuille. Ensuite, tu écris tous les mots qui te passent par la tête en fonction de ces thèmes-là. Donc, capitaine, le vent, l'amertume, les embruns, la brume, papillon noir, c'est un truc de bateau, le garde-corps, le port, etc. Et là, ça vous fait déjà tout un champ lexical de mots. Qui répétés comme ça vont donner une atmosphère à votre texte. Donc ça, c'est sympa d'utiliser ça. Vous pouvez mélanger par exemple la joie et la mer ou la joie et la tristesse. Donc vous faites deux colonnes, ça s'appelle le chant lexical. Très utilisé en poésie. Gatsby, tu te sens?
Ouais.
Super. Eh ben, on t'écoute.
Alors j'active le micro là. Ah, on est obligé d'appuyer pour parler.
Est-ce qu'on peut changer? On va changer ça vite fait.
On va changer ça vite fait, bouge pas.
C'est adorable. Bon, du coup, je vais faire mon intro en attendant. Du coup, je m'excuse par avance parce que de ce que j'ai entendu, ce que j'ai est beaucoup plus cinglant et bruyant, on va dire. Du coup, l'échange que vous allez entendre, il est issu du film Banlieusard du rappeur Kerry James, qui met en scène deux élèves avocats qui disputent une finale d'un concours d'éloquence, dont le sujet est « L'État est-il le seul responsable de la situation des banlieues en France ?» L'un argumentera l'affirmative, l'autre la négative. Voilà.
C'est bon, Gatsby, tu dois pouvoir être en détection automatique.
Génial. C'est bon, ok, parfait. Mais qui est l'État? Vous,
Moi ? Nous ? Notre système dit démocratique n'est qu'une immense mascarade. Le 49-3, les ordonnances ne sont que la partie visible de l'iceberg. L'État, ce n'est pas le peuple, car cela fait bien longtemps que le peuple français ne décide plus de la politique intérieure ou extérieure du pays. Je ne suis pas sûr qu'il ait pu le faire un jour. Qui d'entre vous a le sentiment d'influer réellement, par son vote, sur l'avenir du pays ? Libre, c'est un fait. Oui, je le suis. Oui, je le crois. Oui, je le clame. Cible de mes faits, je le fuis le combat. Préfère brandir ma lame. Je ne suis pas spectateur de ma vie, car j'en suis le sujet. Au cauchemar, je survis, jusqu'à ce que mes rêves deviennent des projets. On nous propose, on nous impose quelque part, de voter pour des gens qui proviennent tous finalement d'une même caste et partageant au fond la même vision du monde. Et une fois élus, ces gens n'appliquent pas le quart de leur programme électoral, celui-là même qui nous avait poussé à les mandater pour gouverner. Ils font semblant de se diviser en partis et de nous laisser le choix. Mais ces carriéristes entêtés, soumis aux ogres de la finance, n'ont aucun scrupule à passer de l'un à l'autre. Mes espoirs voyagent sur les ailes de mon intrépidité. Émerge mon courage des profondeurs de l'adversité. Téméraire, fier, je m'engage dans la guerre, de la vie, volontiers. Même quand la bataille fait rage, je n'espère qu'on me prenne en pitié. L'État dans ma bouche, ce n'est pas vous. Non, je n'accepterai jamais l'idée que l'État porte la responsabilité de tous mes maux. L'État dans ma bouche, ce ne sont pas les riches seulement. Accepter cette idée, c'est accepter de n'être que victime, car il faut une victime au bourreau. L'État dans ma bouche, ce ne sont pas les blancs uniquement. Accepter de n'être que victime, c'est quelque part ranger l'épée au fourreau. Victimisation passive, l'échec la chérit, s'en nourrit et en fait son terreau. Ma présence démontre la fausseté de votre prétendue équation. Banlieue plus pauvreté mènerait fatalement au cimetière ou à l'incarcération. L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts moraux causés par des discriminations territoriales, et oui, disons-le, raciales. Je trouble vos fantasmes, moi, banlieusard à la peau ébène. Je le fais sans sarcasme, non, ma place n'est pas à la prison de Fresnes. L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui, avec la complicité des médias, ont réussi à monter une partie des Français contre une autre, en manipulant froidement les conséquences, sans jamais s'intéresser aux causes. Cela porte une responsabilité. Je ne laisserai ni à vous, ni à l'État, le pouvoir de décider pour moi. Victime ou soldat, gardez bien en mémoire lequel de ces deux fut mon choix.
Bravo, t'en es en deuxième, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Non, non.
Ah, je croyais qu'il y avait un deuxième qui suivait.
Non, c'était un dialogue, en fait.
D'accord.
C'est quelque peu percutant.
Ouais.
C'est un peu cinglant, effectivement.
Belle emphase.
Donc je vous invite à regarder le film Banlieusard si vous voulez voir la tirade en entier.
Les ailes de mon intrépidité, si j'ai bien compris. À un moment donné, ça m'a sorti d'un discours. Il y avait de la poésie à ce moment-là et du coup ça accroche.
Ah bah c'est sûr que c'est Kerry James, un rappeur très poétique, et effectivement je vais essayer de te retrouver le passage. Mes espoirs voyagent sur les ailes de mon intrépidité. Émerge mon courage des profondeurs de l'adversité. Téméraire, fier, je m'engage dans la guerre, de la vie, volontiers. Même quand la bataille fait rage, je n'espère qu'on me prenne en pitié.
Et ouais. Ah, je rêverais d'interventions comme ça dans les soirées after thinking avec les gens qui savent écouter. Ouais. C'est trop bien.
Ah bah c'est sûr que là, ça en jette quand même.
Ouais. Super, merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Oui, c'est celui-là, Melk.
La tirade oui. Laisse de la place au débat.
Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est mon avis. Est-ce que vous avez d'autres avis, vous ?
Ça dépend. Ça dépend si, à mon avis, il faut que tu sois quand même face à quelqu'un qui a l'énergie de prendre en considération tous les arguments que tu avances dans ta tirade. Parce que quand tu sors une tirade, en général, tu donnes un certain nombre d'arguments. Tu ne donnes pas qu'un seul. Et donc ça...
Mais la tirade, c'est l'inverse d'un débat, en fait. Un débat, c'est un échange entre deux personnes, et une tirade, c'est un discours face à une personne ou une assemblée, notamment une assemblée. Et typiquement, fut un temps, dans les premières décennies de l'Amérique indépendante, les personnes qui voulaient être élues faisaient des tirades de quelques heures, en fait, en place publique. Et donc, en fait, t'avais quelques heures de l'un, quelques heures de l'autre, pas forcément le même jour, et c'était ça, la vie politique, tu vois.
C'est fait pour convaincre, c'est ça.
C'est fait pour exposer une pensée, en fait. Et donc, un peu comme un discours, mais effectivement, avec un peu d'éternité, quand les gens prennent la peine de le préparer et de l'écrire eux-mêmes. Et donc... moi je pense qu'en fait c'est deux exercices très différents qui se comparent pas vraiment, la tirade et le débat.
Ce que je veux dire, c'est que la tirade peut avoir lieu dans les instances parlementaires, notamment.
Dans les instances parlementaires, on débat pas.
Tu débats pas dans les instances parlementaires, toi? Enfin, je sais pas toi, mais... Alors, c'est fait pourquoi ?
C'est fait pour faire un ensemble de tirades, mais soyons honnêtes, je sais pas. Peut-être que dans une république parlementaire, effectivement, les tirades qu'on a en assemblée, ou les débats qu'on a en assemblée, ont un poids, mais en France, ça fait bien longtemps que le Parlement a aucun pouvoir, en fait. Parce que tu peux mettre toutes les tirades que tu veux... Il n'y a pas de place au compromis, vu qu'il y a toujours un parti qui est majoritaire. À partir de là, le compromis, il n'est pas nécessaire. Par contre, effectivement, si tu vas, il me semble, en Angleterre, ou à confirmer, mais peut-être aussi en Israël et en Allemagne, où tu dois forcément, au niveau parlementaire, faire des alliances politiques pour faire passer des choses, construire quelque chose pour convaincre une partie des personnes qui sont proches de toi et qu'il faut convaincre pour faire passer un amendement.
De tes potentiels alliés.
Voilà.
Ah, je me rappelle que la dernière fois qu'on avait fait cette soirée-là, je crois que moi j'avais lu des passages de La République de Platon. Et il y a un échange à un moment donné sur chacun doit donner son avis sur l'amour et. Et donc, chacun fait des tirades sur l'amour, et c'est très intéressant. Est-ce que c'est un débat ? En tout cas, c'est un débat où chacun s'écoute et chacun a un long temps pour parler. C'est pas vraiment un débat, mais disons que je dirais que dans un débat, s'il y a une tirade qui intervient, moi je trouve ça super, ça donne un petit peu d'espace et d'aération.
Moi, au contraire, j'ai l'impression que ça assomme. Il faut avoir un adversaire qui sache tenir. Autrement, ça assomme le débat.
Ashkaman, je trouve que tout discours dépend vraiment de celui qui l'énonce. Moi, je suis vraiment pas d'accord. J'ai déjà été touché par des gens qui s'exprimaient très peu et qui, à un moment donné, se lâchent parce qu'ils en ont marre de quelque chose et qu'ils s'expriment vrai. Et en général, on s'en souvient. C'est justement, je sais pas. J'ai plein d'exemples comme ça, de gens qui d'un seul coup explosent, sortent leur trip et on les écoute.
Je suis très timide de base, effectivement.
Ouais, mais c'est ce qu'il veut dire, Ashkaman, Dani. C'est que dans ces cas-là, même dans ton exemple, peut-être que c'est les mots et les propos de la personne qui te touchent, mais c'est aussi et surtout la personne qui te touche, du coup.
Je suis d'accord avec Mel, parce que tu te souviens de comment était la personne. Une fois qu'elles ont énoncé leur discours, tu as dit que c'était des personnes qui étaient parfois réservées. Et donc, tu fais quand même un lien avec qui elles sont.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Par contre, c'est quand même le sens des mots qu'on retient.
Bah, personnellement, je suis du côté de Melk et de Ashkemen sur ce coup, tu vois. I have a dream, ça vient pas de Bill Gates, tu vois. Et si ça venait de Bill Gates, ça aurait pas la contenance que ça a pu avoir.
Tu veux dire qu'en fait, Bill Gates, il pourrait jamais s'exprimer d'une façon marquante ?
Non, je suis en train de te dire que l'homme porte le discours autant que les mots portent le discours. C'est-à-dire que le jour où, le jour où t'as Sarkozy qui te fait un grand discours sur la corruption, il pourrait avoir le meilleur verbe du monde, on va être incapable d'y croire. Parce que c'est Sarkozy qui ouvre la bouche. Et donc, en fait, t'as aucune émotion, mis à part le fait que tu trouves que ce mec-là est hypocrite. Quand bien même, ce serait bien beau.
Ouais, c'est sûr, dans ce sens-là, ouais.
Des doutes, dit Bento. Adam Chirac, que j'apprécie pas beaucoup, j'aime beaucoup le discours qu'il a fait au sommet de la Terre. C'est un beau discours, voilà. Quel que soit le personnage, son discours est émouvant. Donc, l'homme peut être un connard, mais le discours, lui, est vrai. Si le discours est vrai...
T'es en train de faire un AVC numérique, Black.
Ah, c'est triste.
Bah après, le truc, Black, c'est que moi, je vois duquel tu parles, mais moi, je trouve que c'est un discours extrêmement hypocrite d'un mec qui a eu le pouvoir pendant 15 ans et qui fait un dernier discours bien joli, plein de bonnes intentions. Mais c'est le dernier discours de sa vie politique. Le mec a eu 15 ans de pouvoir. Il a été à Paris pendant 15 ans aussi. Donc, il a géré des dizaines de milliards et ensuite la France.
Donc, oui, en fait, ce n'est...
Mais je suis d'accord.
Oui, c'est hypocrite, mais même si le personnage était un connard, le discours n'en reste pas moins vrai et émouvant. Le personnage qui le porte a peut-être une sale image, mais son discours, lui, est vrai. Et le fait que le discours soit vrai peut-être faire disparaître un petit moment tout ce qu'il a fait. Et quand moi, j'écoute ce discours, je me dis, là, il dit vrai. C'est vrai, c'est un beau discours.
Le fameux Notre Maison Brûle, c'est de celui-là.
Maison Brûle, oui, c'est celui-là dont je parle, en fait.
C'est parce qu'il pense à la fin de son immunité présidentielle.
Je suis d'accord avec toi.
Non, on savait que Chirac, c'est pas un ange, mais on peut lui dire qu'il a fait un beau discours. On peut lui dire qu'il a fait un beau discours, et ça.
Mais je crois que c'est une des caractéristiques de la tirade, en fait. Hein. C'est que les mots comptent, mais du coup, c'est lié aussi à la personne qui les dit. À l'éloquence, au charisme ou à l'impression qu'il laisse. C'est pas indépendant des mots, du coup. Et je pense que ça fait partie des caractéristiques de la tirade, pour le coup.
L'outre-poutre en avant.
Info.
À l'outre-poutre.
Oui, vraiment. Vous pouvez mettre en vocal continu, s'il vous plaît ?
Ouais, une seconde. Hop, la test, ça devrait être bon.
Non, toujours pas.
Ah bon ? Bon.
Attends, ça va être bien là, pardon. Est-ce que je peux tricher parce que j'ai peur de vous éclater vos oreilles? Est-ce que je peux vous lire un texte test avant de passer à la tirade?
Ouais, vas-y.
Ah, merci bien. Tout mouvement social pertinent et juste doit avoir le soutien de la République. Ce soutien est la preuve que la République est digne de ses citoyens. la République ne sera pas parfaite. De ce fait, aussi réel que son idéal est beau, son évolution vient de l'intérieur, de sa base, de son peuple, de son pouvoir de rassemblement. Son pouvoir de rassemblement est le signe de sa tolérance. Une lutte rassemble sous ses idées, de multiples luttes peuvent et doivent converger ensemble. Cette convergence est composée d'autant de points de vue et de vie que d'hommes, de femmes. Les différences et les tensions sur le terrain sont normales et naturelles. La vie est différente pour tout le monde. Ceci ne doit pas être perçu comme un signe de faiblesse ou de désunion. Non, c'est la puissance du partage, de l'échange, du débat, de la pensée et de la culture de chacun. C'est en apprenant et en côtoyant les autres, en acceptant ou respectant leur façon de vivre, en s'assurant du respect et du bien-être de tous, et en s'accordant le droit de réfléchir sur ses propres idées, et en rassemblant avec tolérance et détermination, avec une envie de connaître et de découvrir, les gens comme les pays, que les victoires viendront, et elles seront belles, comme vous.
Alors je rejoins Ashkamen, tu peux te reculer légèrement, parce que des fois ça crachote un peu quelques consonnes, et tu peux parler un tout petit peu plus lentement, et c'est cool.
Ça marche. On va essayer de faire de mon mieux avec ce micro. Éloge de la tiradie, ou la tirade du pingouin masqué avec la tête avec les bras. Laissez-moi commencer cette tirade avec une blague. Une tirade promulguée par une créature de la mythologie grecque, cornue, adepte du vin, de la stupre et du luxe et de la luxure. Comment l'appelle-t-on ? C'est une satirade. À la bonne heure, je suis de bon humour. Vous avez de l'humeur, s'il vous plaît ? Oui, il m'en reste un peu, je vous le mets. Ce soir, ça ne va pas, je vais trop bien. Donnez-moi vos problèmes, que je les revalorise en rire benêt et sincère, façon gorfou macaroni, frénétique des zygomatiques. Un fromage à la bouche et narguant de haut le sphinx du capitalisme, avide d'action, de raison. Me voici donc, vomissant des divagations décousues du fil blanc de la concision. Cette concision est répréhensible dans son imagination. Cela vient de moi, et c'est pour toi. L'humeur nous manipule, tant elle est plus volange dans les libertés qu'elle prend avec nous, qu'on en est maître et créateur, ou prisonnier et créature. Si vous écoutez ce qui suit, comprenez ce que vous souhaitez. Je trouve le travail des mots trop difficile pour pouvoir exprimer l'intégralité exacte de nos pérégrinations mentales. De messages, cette chimère manuscrite est truffée, mais je ne peux choisir quoi dire et quand m'arrêter. Fichue société du choix, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas qu'une excuse, c'est une excuse simpliste. Ne pouvons-nous donc pas vivre sans souci tous ensemble, sans laisser nos natures profondes chercher des réponses, sans prendre le temps d'attendre ? D'années angoisse de la Madeleine. Comment savoir si je suis de bonne humeur, si mon karma pète le feu, si mon cosmos est équilibré de la tête à la queue tel Ouroboros, si le yin et le yang de mon surmoi ont compris pourquoi je suis plus spleen que knout. Quelle pitié maudite saura de quelle couleur est mon aura. J'aime bien le bleu clin, mais n'est-il pas enfumé de brume de pensée, instable et mutante, tant il existe de facteurs susceptibles de l'affecter ? L'humeur est en effet stimulée par nos sens pour irriguer le long fleuve tranquille de nos pensées, sans se méfier des sereines sirènes du désir. Arrive le moment pour nous où vont s'enchaîner chaotiquement les questions existentielles, solitaires et nocturnes, si démentielles qu'elles pourraient déranger la ceinture de Kuiper dans une partie de billard galactique, et faire éternuer Atlas avec une plume de crocodile quand Héraclès lui vole sa bière à la pomme. Ah, ce que j'aime ce moment-là! Dommage d'avoir oublié mon crayon dans l'œil de Morphée, sinon je l'aurais mis sur papyrus pour deux sesterces, afin de passer le styx de la retenue, de la timidité, propre au mouchon. N'oublions pas notre pouvoir de réflexion réfléchi, tel un miroir sans teint. Oui, il se mêle deux périodes rédactionnelles dans ce papier, mais l'humeur de chacune de ces heures n'est pas si changeante. Si je pianote sur mon clavier dans d'éphémères et pensives absences, comme si le but de ma quête est de créer des tempêtes dans les profondeurs de ton être, c'est pour ne pas vouloir t'affecter de négatives et pessimistes français. Et toi, es-tu mon moi ? Qu'y a-t-il à comprendre ? Je veux écrire plus, à en libérer la rage de ma volonté, qui ne sait plus ce qu'elle est. La recherche du temps perdu dans le tonneau d'un Shadok est perdue de ses plus complémentaires et intrinsèques réflexions. Est-ce que cette recherche va-t-elle s'effondrer ? Va-t-elle s'automutiler dans une longue interrogation ? Faites de remise en question de l'existence même des plumes de papillon. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Créons des solutions pour avoir des problèmes. Suis-je obligé d'enterrer mes propos sur plusieurs couches d'humour, aux formes diverses et avariées ? Seulement simple d'accès à travers les filtres poreux de ma conscience prononcée du néant, un néant débordant, celui de mes ressentiments. Eh bien, je pense que ma réponse sur la dualité des points de vue est la nuance. Et la nuance est une autre volonté d'être un objectif forcé, qui est de tout arranger en fuyant les extrêmes. Cette ébauche de solution passe par l'écoute de chaque raison d'être qui coexiste dans la société pensante actuelle. Mais une telle façon de couper la pomme du repêcheur en deux s'intègre partout pour diluer les propos dans une masse d'indécisions très ascétiques et couper court à mon innocent hédonisme. J'aimerais réussir un jour à me rendre plus simple et compréhensible, comme un bonobo ou une loutre, voire même repartir au début permien de notre jeunesse terrienne, et être un mignon chaînon de l'évolution comme le Trinaxodon. Trinaxodon qui était très commun dans les banlieues de Pangée, la pantagruélique Gaïa d'origine. Et vous, qu'en pensez-vous? Des références à la brouette, mais une brouette à la roue carrée, pour mieux grimper les escaliers, et fuir ces maudits escalators pour sédentaires imbéciles qui se refusent à changer d'avis, pareil aux plus bornés des bigorneaux de Berck. Voilà ce que je retiens de la tirade malléable à souhait. Humoriste que je m'improvise, j'aime bien improviser sans se soucier du devoir de prévoir. Cependant, je ne mets point de glaçons dans un bon bourbon. Ce serait une hérésie pour l'ordre du Malte. L'humeur à la divagation qui m'affaiblit et contrebalance ce que je cherche à dire sous les coups de burin de ma volonté incontrôlable, ayant pour perpétuel but de mêler un aléatoire raisonné sous une strate d'imagination vagabonde au vague à l'âme prononcé. D'ailleurs, l'âme a-t-elle un poids? Et s'il était affecté par notre humeur, ceux qui ont péri en ayant lourd sur la patate chaude pourraient, grâce à la pomme de Newton, s'attarder parmi les vivants et communiquer leur désarroi face à l'inconnu de la mort et l'idée sans fin et terrifiante d'une rien, du néant qui sépare mes oreilles. Lis Beckett et sois vite dans l'absurde. Enfin, paradoxe et dilemme sont formateurs et prouvent que vie et conscience vont de pair. Le tout est de ne pas laisser notre humeur nous aveugler face à autrui et oublier qu'ils pensent eux aussi. Je vais être plus attentif, mais ça va être aussi difficile qu'obtenir un 0 sur un dé de 6. Et toi, es-tu en émoi? Ce qui me blesse le plus est le manque de réaction lorsqu'on se retrouve sans vraiment le vouloir face à un viol littéral ou littéraire qui absout un élément fort de ma vie. Sans que je ne le veuille, ni le refuse, ni le réfute. J'ai écrit sous le coup de l'émotion, qui a suppuré sur une feuille. J'aurais dû recycler cette histoire que je voulais partager, or avant que je ne le fasse, je l'ai résumée crûment dans une calligraphie dégueulasse. Et ces pleurs du cœur ont été lus. Tant pis, au moins on en sait plus, mais si je dois m'excuser, c'est pour le choc abrupt que je vous ai peut-être infligé. Je ne suis pas doué, si on ne me dit rien, je ne comprends rien. Je veux sincèrement mieux vous comprendre, vous tous, et vous, chose qui m'apportez joie de vie et bonheur exubérant. Alors parlons-nous. Cela va améliorer l'humeur de nous autres citoyens du monde. Bon, si vous essayez de parler réellement avec moi, j'en serai très heureux, mais je vous souhaite bien du courage. Mais la persévérance, c'est bien, même quand on est con. Bon, je veux prouver cet adage par une mise en pratique double, mais c'est une histoire dont la fin sera heureuse, car ensemble, on se comprend mieux par un regard dans les yeux. Bref, l'humeur, ça vit au jour le jour, et est toujours comme une fenêtre ouverte sur la porte du cœur, si on sait l'écouter pour créer la clé liée au dessin de serrerie des sentiments. Humeurtre de mes souhaits du meilleur, danse des flous les plus fous, j'ai un sentiment intérieur que tout va bien se passer. Laissons-nous le temps d'être heureux sans être peureux. On peut s'accorder le droit d'harmoniser nos convictions et les mélanger pour en cultiver de plus belles et sincères. Ce serait normal. Il n'y a pas de besoin de normalité en ce bas monde. Il est assez grand pour nous gérer. Pardon pour le sérieux de ma dérision. Je tiens à vous. Chaque personne à ma manière, je veux en prendre soin et je ne suis désolé de ne pas dire très souvent tout le bien que je pense de vous. Le respect, l'admiration et l'amour que j'ai chaque année et chaque jour. Et nous, à parler du futur, ne serions-nous pas des Nostradamus ? Oui, j'ai aussi parfois l'humeur nostalgique, comme un rêve d'une obscure clarté, impliquant un Jules Verne expérimentateur du spleen des plus homériques chez les lotophages, avec une corrélation hasardisante mêlant les miracles d'application du courant alternatif de Nikola Tesla et une machine à crêpes qui aurait tout fait d'oublier toute règle de bienséance pour laisser déborder sa joie et triompher de la froide logique de l'histoire réelle. Il faut un coup de foudre de curiosité qui s'invite inopinément dans le bouillon pensant, d'où bout notre humeur dans l'instinct présent et son appréciation consciente pour la faculté de la partager. Bon, l'humeur se communique. Elle peut être futile dans sa bêtise cocasse ou ses niaiseries outrageantes et ras la ceinture pour les conventions orthodoxes. J'ai conscience d'être troublant par moments, mais je veux agir de façon bienveillante et surprenante pour sortir du marasme de cette froide société de la rentabilité. Faisons évoluer les classiques valeurs sur l'humeur. Je vous laisse avec le Gorfou Macaroni, un pingouin très apprécié des punks, qui a réussi à maintenir mon humeur haut dans le ciel jusqu'à en bousculer leur ligne directrice sous la direction curieuse que leur apporte le passage des avions sur les îles Malouines. Voici.
Le numéro de ton dealer, s'il te plaît.
Merci, Poutre. Ah, c'était top.
Merci. Oh, le texte était super bien choisi.
Ouais. Alors, et de même, je veux bien une petite version PDF pour relire un de ces quatre, hein, si tu l'as sous le code.
Non, c'est triché.
Comme tu veux.
Écoute, je l'ai laissé sur le bureau, sur le PC de la compta. Mais je l'ai en photo, ok.
Parce qu'il y avait beaucoup d'imagerie. Il y en a qui m'ont fait sourire souvent. Il faudrait que je revienne dessus. Une brouette à roues carrées pour monter les escaliers.
Beaucoup de références aussi. Vous en connaissez un rayon, monsieur Loutre-Poutre.
Ah, c'est un peu du vrac.
D'ailleurs, ça éclaire un peu sur pourquoi tu as choisi ce pseudo, qui me plaît bien d'ailleurs.
Et voilà, ça ressemble à ça, un Gorfou Macaroni. Il a donc une crête.
Ouais, il y avait plein de références à l'appel, il aurait fallu noter.
Bon, je veux bien vous donner les photos, mais ça va pas être très agréable pour vous, il a été remanié sur le vif.
Non, mais sinon dans quelques jours, si tu chopes le texte numérique, on n'est pas pressé, hein. On n'est pas offert, ça va.
Eh ben non, je vais les mettre parce que j'ai une écriture toute pourrie, et c'est pour t'inciter à aussi le prendre en photo, le magnifique test.
Et par curiosité, t'as mis combien de temps à écrire ça? 30 minutes, 1 heure, 6 heures?
Je m'y suis pris en deux fois, et je pense que ça a pris une bonne heure et demie.
Et t'as écrit ça quand ?
Ce matin, bien motivé, après avoir terminé une dose de compta, et cet après-midi, en revenant, après avoir fait une rencontre sympathique.
Ah, c'est génial, hein ! Et non, mais vraiment, en plus, t'as bien choisi le... Enfin, je veux dire, t'es bien dans le thème, quoi. C'était judicieux. Génial. Est-ce que on n'a plus que Mésopotamie si tu veux te lancer, hein?
Je suis là.
Allez.
J'attends qu'on me mette le micro en permanent, peut-être.
Ah oui, c'est bon.
Puisque
On va pas se coucher super tard. En tout cas, de mon côté, je vais pas me coucher super tard. Et donc, après cette dernière, je vais peut-être y aller.
Ça devrait être bon, Mezo. Après, il faut que tu ailles activer de ton côté aussi.
Alors, bien entendu, quand on fera des interventions, ouais, on t'entend, Mésopotamie. Quand on fera des interventions comme ça, disons que, comme on disait tout à l'heure, hein, on essaye de voir le nombre de personnes qu'on est, on essaye de voir combien de temps on va pouvoir avoir la parole et on s'adapte.
Donc, j'ai choisi l'Ultima Verba de Victor Hugo. Le contexte, c'est en 1851, Napoléon III fait un coup d'État et prend le pouvoir. Victor Hugo est complètement opposé à Napoléon III. Il trouve que c'est un minable, et en le comparant au vrai Napoléon, au premier Napoléon. Et il est exilé ensuite en Angleterre par le pouvoir. Il écrit un recueil appelé Les Châtiments, qui est une sorte de... Ce sont des pamphlets poétiques contre le régime napoléonien. Ultima Verba. La conscience humaine est morte. Dans l'orgie, sur elle, il s'accroupit. Ce cadavre lui plaît. Par moments, gai vainqueur, la prunelle rougit, il se retourne et donne à la morte un soufflet. La prostitution du juge est la ressource. Les prêtres font frémir l'honnête homme éperdu. Dans le champ du potier, il déterre la bourse. Cibourg revend le dieu que Juja a vendu. Ils disent, César règne et le dieu des armées l'a fait son élu. Peuple, obéis, tu le dois. Pendant qu'ils vont chantant, tenant leurs mains fermées, on voit le séquin d'or qui passe entre leurs doigts. Oh, tant qu'on le verra trôner, ce gueux, ce prince, par le pape béni, monarque malandrin, dans une main le sceptre et dans l'autre la pince, Charlemagne taillé par Satan dans Mandrin. Tant qu'il se vautrera broyant dans ses mâchoires, le serment, la vertu, l'honneur religieux, ivre affreux vomissant sa honte sur nos gloires, tant qu'on verra cela sous le soleil des cieux. Quand même grandirait l'abjection publique, à ce point d'adorer l'exécrable trompeur, quand même l'Angleterre et même l'Amérique diraient à l'exilé, va-t'en, nous avons peur. Quand même nous serions comme la feuille morte, quand, pour plaire à César, on nous renierait tous, quand le proscrit devait s'enfuir de porte en porte, aux hommes déchirés comme un haillon au clou. Quand le désert, où Dieu contre l'homme proteste, bannirait les bannis, chasserait les chassés, quand même infâme aussi, lâche comme le reste, le tombeau jetterait dehors les trépassés. Je ne fléchirai pas. Sans plainte dans la bouche, calme le deuil au cœur, dédaignant le troupeau, je vous embrasserai dans mon exil farouche, patrie, ô mon autel, liberté, mon drapeau. Mes nobles compagnons, je garde votre culte. Banni, la République est là qui nous unit. J'attacherai la gloire à tout ce qu'on insulte, je jetterai l'opprobre à tout ce qu'on bénit. Je serai sous le sac de cendres qui me couvre, la voix qui dit « malheur », la bouche qui dit « non ». Tandis que tes valets te montreront ton Louvre, moi, je te montrerai César, ton cabanon. Devant les trahisons et les têtes courbées, je croiserai les bras indignés mais sereins. Sombre fidélité pour les choses tombées, sois ma force et ma joie et mon pilier des reins. Oui, tant qu'il sera là, qu'on cède ou qu'on persiste, ô France, France aimée et qu'on pleure toujours, je ne reverrai pas ta terre douce et triste, tombeau de mes aïeux et nid de mes amours. Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, France. Ô le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les éprouvés, je planterai ma tente, je resterai proscrit, voulant rester debout. J'accepte l'après-exil, n'eût-il ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont qui devaient demeurer. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Voilà, messieurs.
Super.
Merci, Mezzo.
Merci, Mezzo. Bien lu.
Ouais, encore une fois, beaucoup d'emphase.
Ah, c'est top. Je reviens un petit peu sur le premier chapitre de cet atelier là. Moi, j'adore hein, ces passages là. Alors, quand c'est fait par nous, bah, y a un petit côté en plus. Si c'est dans l'actualité, il y a un petit côté en plus et tout ça. Mais cette façon de s'exprimer, ça, moi, ça me, je trouve que, je sais pas, ça ferait le plus grand bien. Et ouais, super bien lu, vraiment bien lu, le texte bien choisi. C'est marrant en fait. Ça me fait... Des fois, j'ai pensé au texte qui avait été lu tout à l'heure par Gatsby sur l'État.
Voilà, en plus, encore une fois, on remarque que. Les paroles claquent plus avec les rimes en plus quoi. Il y a le fond du discours, il y a l'orateur qui joue et puis le fait qu'il y ait les rimes, même si c'est un discours adressé à moi, en tout cas ça me donne l'impression que c'est adressé à une population, à une foule, d'y mettre des rimes, ça donne du panache.
Mm-hmm. C'est de l'Alexandra aussi.
Mm.
Ouais, merci à tous ceux qui ont Merci à tous ceux qui ont écouté aussi. Brassens. Alors là, ouais, je sais pas c'est quoi ce que vous parlez. Ok, c'est normal. Je ne vais pas personnellement. Restez beaucoup plus longtemps. Je vous remercie beaucoup. C'était pas très préparé ce soir, vous l'avez peut-être senti, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai pris plaisir à écouter. Je pense que beaucoup de gens ont pris plaisir à écouter. Si vous voulez continuer à parler de tirade ou d'ailleurs, avec plaisir, faites-vous plaisir. Et j'espère au détour d'un livre blanc, au détour d'un débat, j'espère un jour. Et quelqu'un de nous arrive à en placer une, ce serait vraiment trop joli.
Cool, merci à toi.
Merci à vous les gars. Et les filles, s'il y a des filles. Allez, bis.
Merci beaucoup, Dani.
Merci, Dani.
Salut.